que de prendre pied dans chacun et dans chacune de toutes les personnes humaines. L'incarnation, cela nous concerne. Ça ne concerne pas seulement Jésus de Nazareth il y a 2000 ans, cela nous concerne personnellement. Il y a un enfant Jésus, il y a un fils de Dieu, une fille de Dieu, que nous avons à mettre au monde pour offrir au Père lorsque nous le rencontrerons. C'est notre tâche humaine. C'est là être appelé par Jésus, par notre nom propre. C'est là être choisi pour être envoyé, pardon, pour être avec lui et pour être envoyé, proclamé pour chasser les démons. Voilà la tâche qui nous est donnée. Et nous résistons. Nous sommes des satans, des obstacles. Nous ne voulons pas nous laisser désinstaller, nous laisser désorienter. Nous préférons garder notre vieux vin, car, et c'est Luc qui ajoute là dans le même passage que nous avons vu tout à l'heure, hein, et personne ne dit qu'il veut du vin jeune parce qu'il dit le vieux est meilleur. Nous n'aimons pas nous laisser désinstaller. Hein. Et nous avons du mal d'appartenir à cette famille que Jésus nous donne. Pourtant, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Oui, ça, c'est pas une phrase inventée par des hommes. Et si cette phrase est tellement percutante, à telle enseigne que vous la retrouvez dans tous les évangiles, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Je ne vais pas commencer ce soir à prendre les paraboles. C'est comme un discours en paraboles que vous trouvez chez tous les évangélistes, sauf Jean. Jean passe toujours son chemin. Mais nous le prendrons demain si vous le voulez bien. Simplement, en deux mots, je résume la première section que nous avons vue et la deuxième que nous avons seulement commencé. Nous, Jean-Baptiste, nous cédons la place à Jésus. Nous disons, il y a quelqu'un qui va vous plonger dans l'Esprit Saint. C'est ça qui est essentiel. Vous pouvez, et c'est bon, d'avouer vos péchés, de dire vos limites, de dire vos fautes, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous laisser plonger dans l'Esprit du Seigneur et de le laisser vous renouveler intérieurement. Et pour cela, que faire? Eh bien, vous laissez appeler. Appelez constamment, jour après jour, là où vous êtes. Et laissez, lâchez prise. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui ne sont pas l'essentiel. Mais progressivement, au fur et à mesure que nous avançons en âge, nous devons bien lâcher prise. on lâche sa mémoire, on lâche certaines de ses activités, on lâche. Mais on peut le faire avec amertume ou on peut le faire joyeusement. Est-ce que nous le faisons joyeusement? Laissez le Seigneur entrer progressivement dans notre quotidien. Lâchez nos filets, mais continuez d'être pêcheurs. C'est-à-dire d'attirer. D'attirer les gens. Par la manière dont nous parlons, la manière dont nous vivons, la manière dont nous faisons du bien. Ce que Jésus faisait, quoi. Nous avons vu qu'il rejoignait les gens là où ils étaient, dans le lieu où ils étaient ensemble, dans la synagogue par exemple, il les rejoint là où ils sont dans leur vie. Et nous pouvons les rejoindre aussi, nos contemporains, dans leur vie. Je me souviens de cette religieuse qui était retraitée. Elle avait donné la classe pendant toute sa vie et était retraitée. Elle habitait Bruxelles. Et elle avait demandé à sa supérieure de pouvoir passer ses journées à la gare du Midi. Et elle avait seulement dans sa sacoche un beau tas de téléphones, des listes d'adresses, toutes sortes de machins du même genre, des choses qui pourraient être utiles à Pierre ou Paul. Et elle renseignait les gens. Elle arrivait toujours à trouver des gens qui posaient des, qui avaient des questions à poser. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de stand d'information. Et il allait comme ça de l'un à l'autre. Elle emportait le matin son pique-nique et elle le mangeait sur un banc avec peut-être quelqu'un qui cassait la croûte, là. Et elle partageait souvent son pique-nique aussi, elle prenait toujours un peu plus. Et elle renseignait les gens. Elle les rejoignait là où ils étaient. C'est-à-dire dans leur quête. Ils avaient besoin d'un renseignement. Elle était là, à leur service. Elle leur donnait un numéro de téléphone. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne prenait rien avec elle. Mais elle renseignait. C'était sa parole. Voilà. C'est ce que faisait Jésus. Renseigner les gens. Les rejoindre là où ils sont. Dans la mesure du possible. Et après un certain temps, il y avait tout le monde qui la connaissait. C'est vrai. On la voyait constamment. Elle était là. Elle disait bonjour à tout le monde. Et on finissait par la connaître. Elle faisait partie des meubles. Elle est décédée aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de temps. Il y a moyen de soigner les malportants, chasser de nombreux démons, y compris le démon de l'incertitude, hein, des gens qui sont en quête de renseignements. Il y a moyen de faire tout cela. Et Jésus dit, allons ailleurs, nous n'aurons jamais fini. Bien sûr, nos forces sont limitées, et nous pouvons accepter que nos forces soient limitées, et qu'il n'y ait que 24 heures par jour, et que nous n'ayons que demain. Mais ça fait partie du réel à recevoir. Faire ce que je puis. Je ne peux peut-être pas aller rendre visite à 50 personnes, mais je peux en voir un ou une qui est particulièrement seule, qui souffre d'une manière particulière. Il y a toujours moyen de se mettre à l'affût de personnes qui ont besoin. Il y en a tellement. C'est ce que Jésus fait. Il va trouver tout un chacun. Premier volant. premier volet du diptyque. Eh bien, quoi que vous disiez, ça ne contente pas tout le monde. Il y a quand même des gens qui trouvent à dire. Et nous trouvons à dire que, bah oui, il exagère quand même. Voilà. Le Satan, l'opposant, est présent aussi. On devrait avoir confiance en lui. On n'a pas tellement confiance. On dit, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? C'est souvent comme ça que nous jugeons, hein? S'il fait ça, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et on s'oppose. On a du mal d'accueillir le plus profond de ce qui est en l'homme. D'accueillir ce fils de l'homme, cette fille de l'homme qui se cache. C'est difficile. C'est difficile. C'est ce que Jésus nous dit. Et il ne faut pas vous en faire, nous dit Jésus. Vous serez contrés, comme moi j'ai été contré. Jean-Baptiste a été livré. Mais enfin, je vous annonce quand même que vous êtes des fils ou des filles bien-aimés de Dieu, que vous avez un médecin à votre disposition et que ce médecin est votre époux. C'est quand même beau, hein? Soyez au service de la vie. Le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Acceptez de devenir libre à mon contact, de vous entendre appeler par votre nom propre et de vous laisser envoyer. Pêcheur d'hommes. Bon, il y en a qui vous le pardonneront pas. Hein. Vous direz, ben, qu'est-ce qu'il fait celui-là ou celle-là? Ça déraille, non, quelque part? Et vous allez vous sentir contré, et souvent par des proches. N'ayez crainte, continuez votre chemin. Vous êtes en train de faire une œuvre extraordinaire. Vous êtes en train de mettre au monde celui qui est le Fils de l'homme. Le ressuscité, et qui a encore besoin aujourd'hui de vos bras, de votre douceur, de votre regard bienveillant, de votre sourire, pour vivre. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne connaissez que sa voix au téléphone, téléaccueil. Quelqu'un qui a besoin. C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Mettre au monde, même si ce n'est pas dans votre famille, ce n'est pas important. Je vous donne des frères et des sœurs à aimer. Mettez-le au monde. Ça me fera tellement grandir. Voilà un peu ce que nous avons vu aujourd'hui. Ça semble être très peu de choses, mais c'est l'essentiel. Il faut encore croire dans la vie de Jésus, parce que c'est un sujet qui se vend bien aujourd'hui. Il y a par année une douzaine de livres au moins en français qui paraissent sur Jésus. Donc ça fait beaucoup. Mais il y en a certainement trois fois autant qui paraissent en américain ou en anglais. Parce qu'on écrit beaucoup. De toutes sortes de manières, dans tous les sens. Depuis ceux qui disent « Jésus c'est un pur mythe », c'est de l'imagination d'une petite cellule, hein, qui est devenu après l'Église et qui a imaginé un homme merveilleux qui faisait toutes sortes de choses et qui l'a divinisé. Depuis ceux qui disent c'est un pur mythe, une pure invention humaine, jusqu'à ceux qui disent c'est Dieu qui est passé à travers l'homme sous une apparence humaine, mais il n'était pas vraiment homme. Donc vous avez tout. Comme dans les premiers siècles, hein, on s'est imaginé toutes sortes de choses à propos de Jésus. Et comme maintenant, hein, on ne dit plus rien sinon dans les médias, que ce soit la télévision ou les journaux, tout ça passe immédiatement dans le grand public. Si bien que les gens ne savent plus très bien à quoi s'en tenir. Alors, un livre qui est assez remarquable, c'est celui-ci. Que sait-on de Jésus de Nazareth ? Donc c'est fait par quatre professeurs de Toulouse, sous la direction du père Alain Marchadour. Et ce sont des conférences qu'ils ont données pendant toute une année. Et je vous donne simplement les titres de la table des matières. Donc ce sont quatre auteurs qui se mettent ensemble pour reprendre le texte qu'ils ont donné dans leur conférence. Et finalement, ça a fait un livre. Et c'est suffisamment simple, ouvert, il n'y a pas trop de termes techniques pour que tout le monde puisse y avoir accès. Il y a des livres plus compliqués, bien sûr, mais ceci, c'est certainement un des bons. Je viens, par exemple, de terminer la recension d'un livre qui a plus de 2000 pages, en trois grands tomes, en américain, sur le même sujet, mais beaucoup plus compliqué. Un avant-propos, Jésus, l'énigme féconde. Donc ça pose un peu le problème de la situation aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu quelques années, en Amérique, on a fait ce qu'on appelait le Jésus séminaire. On rassemblait des quantités de personnes, des grands chanteurs, des publicistes, des hommes de science, etc., dans un grand hôtel pour leur demander, pour mettre aux voix l'évangile, pour savoir ce qui était vrai et pas vrai. Et on mettait aux voix. Sur les 350 personnes qui étaient là, si par exemple on disait cette parole-là, de l'avis de la majorité, c'est une parole de Jésus, alors elle était parole de Jésus. Vous voyez comment on peut transformer les choses. Jésus, l'énigme féconde. Et si les évangiles apocryphes disaient vrai, on met de plus en plus sur le marché aujourd'hui les évangiles apocryphes. S'ils sont apocryphes, c'est que l'Église n'a pas reconnu dans ses évangiles la vérité, la sobriété surtout de l'Évangile. Mais comme il ne dit pas tout et qu'on voudrait qu'il dise, qu'il donne davantage de détails, on les imagine. C'est ce qu'ont fait les évangiles apocryphes. Deuxième, les 50 ans des découvertes de Qumran. Ça s'est dit beaucoup, hein. Qumran a montré que le christianisme n'existait pas. Que c'était simplement une ouverture, une sorte de succursale de Qumran. Alors, le monde où vivait Jésus, c'est important, et c'est pourquoi je vous ai recommandé le petit livre sur le milieu de Jésus, avec Jésus à contre-courant. Jésus a-t-il vraiment fait des miracles ? Question que l'on pose souvent. Et qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Bien entendu. Il parlait en paraboles, nous allons voir. Qu'est-ce que cela veut dire, les paraboles ? Sixièmement, le procès de Jésus est-il encore ouvert ? Qu'est-ce que c'est que le procès de Jésus ? Et le procès de Jésus, c'est vraiment la manière dont il est jugé dans le monde encore aujourd'hui. Septièmement, ressuscité le troisième jour. Que signifie exactement la résurrection ? Et puis, un chapitre intéressant, de Paul à Marc, deux regards sur Jésus-Christ. Comment Marc, que nous voyons maintenant, voit-il et présente-t-il la personne de Jésus? Et comment saint Paul, qui a réfléchi à partir du judaïsme, comment présente-t-il le même personnage de Jésus? Est-ce du même Jésus qu'il s'agit? Les présentations sont parfois tellement différentes. Et enfin, une conclusion. Donc si vous voulez quelque chose sur ce sujet-là, je crois que c'est un des meilleurs qui existe pour le moment en langue française. Ça a apparu chez Bayard, Bayard Presse, en 2001, donc l'an passé. 8 contributions sur le milieu où vécut Jésus, son message, sa mort et la constitution des Écritures qui témoignent de lui pour faire le point des connaissances sur Jésus. Et ceci est certainement plus fiable que les émissions qui ont eu lieu à propos de Jésus et qui ont été encore, comment dirais-je, tout de suite, et qui ont encore été publiées. Oui.
C'est juste le titre. Le titre.
Que sait-on de Jésus de Nazareth? Que sait-on? Nous reprenons le fil. Nous avons vu que Jean-Baptiste cédait le pas à Jésus, que Jésus était plongé dans notre eau et recevait d'être appelé par la voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils, le bien-aimé, en toi je me suis complu. » Et donc cette parole est donnée pour Jésus. Mais Jésus, se baignant dans notre eau et baignant notre réalité humaine d'Esprit Saint, fait que nous pouvons recevoir à travers lui cette parole comme nous étant dite. Toi, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je me suis complu. Et c'est au fond tout le message de saint Marc. Comment sommes-nous présents en Jésus de Nazareth et comment nous conduit-il vers le Père? Comment nous fait-il fils et fille en lui-même? Donc c'est dit dès le prologue. Et puis alors nous voyons comment Jésus, aujourd'hui Jésus ressuscité, nous atteint. Dans la première section, nous avons vu que Jésus rencontrait les hommes là où ils sont, là où ils se rassemblent, et il fait surgir chaque fois dans les hommes une libération. Et en même temps, il les révèle à eux-mêmes. Il nous révèle que nous sommes mélangés, que nous sommes ambigus, et en même temps, il nous purifie et il nous libère intérieurement, si nous nous laissons libérer et guérir intérieurement. Donc Jésus rencontre les hommes. Mais cette rencontre de Dieu, cette sorte de collision frontale avec Dieu fait homme, cela nous pose des questions, parce que cela excède notre réalité, ça la dépasse. Et nous n'aimons pas être dépassés. Nous aimons toujours contrôler tout, nous assurer de tout. C'est notre mentalité, c'est celle de l'époque de Jésus aussi. Et Jésus fait sauter un certain nombre de choses auxquelles nous tenons, et qui sont pour nous comme des assurances. Et c'est pourquoi une résistance au réel. Et cette résistance au réel, cette difficulté à recevoir le réel tel qu'il est, Dieu, les autres et nous-mêmes, cette résistance, nous l'appelons péché. Et dans la Bible, vous savez que le péché, c'est une réalité qui est en nous, mais que Dieu nous révèle. Nous ne savons pas tellement que nous sommes pécheurs. Nous sentons une culpabilité en nous. Nous nous condamnons ou nous condamnons les autres. Et souvent nous justifions cela. Or, dans la Bible, il y a un antidote. C'est le péché. Le péché, c'est Dieu qui nous révèle que quand nous nous faisons mal à nous-mêmes, quand nous faisons mal aux autres, nous l'atteignons lui. Il se laisse atteindre dans notre réalité. Parce que lui est le réel, le grand réel. Et il nous le révèle, il nous fait la grâce de nous le révéler. Et donc, je dis d'une formule un peu paradoxale, nous pouvons pécher grâce à Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir pécher. C'est-à-dire de pouvoir percevoir qu'on nous dise enfin que nous atteignons Dieu. Et nous échappons par là à la culpabilité. La culpabilité, c'est s'enfermer en soi-même, c'est s'enfermer dans ses limites, c'est s'enfermer dans ses impuissances, c'est s'enfermer dans son propre mal. Tandis que le péché, c'est découvrir tout d'un coup que c'est face à quelqu'un que j'ai atteint, que je suis, et que ce quelqu'un que j'ai atteint me pardonne. Mais me pardonner, c'est me transformer, c'est me changer, c'est me libérer, c'est me guérir. C'est cela que nous avons vu. Et quand nous résistons à cette puissance de pardon, eh bien, nous nous enfermons en nous-mêmes. Et nous nous justifions généralement. Et nous devenons seuls, solitaires. Non pas seuls avec, mais seuls fermés sur nous-mêmes. Et c'est très souvent ce que nous vivons. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Il est venu nous dire que, attention, ne vous fermez pas sur vous-même. Recevez de grâce d'être pécheur et recevez le pardon. Ça, c'est le contraire de péché contre l'Esprit Saint. Péché contre l'Esprit Saint, c'est ne pas vouloir de pardon, ou bien parce qu'on se croit juste, ou bien parce qu'on croit qu'on ne peut pas nous pardonner. Donc on n'a pas encore perçu quelle était la profondeur de l'amour de Dieu. Au fond, le péché contre l'Esprit Saint, c'est vraiment de s'enfermer en soi-même, de tout bloquer. Et c'est cela que nous avons vu. Il y a une contestation. Dieu est trop grand pour que sa présence parmi nous ne conteste pas quelque chose en nous. Nous voulons toujours le ramener à nos proportions, à nous. Comme cela, on peut le dompter plus facilement. On peut le contrôler. Et on n'est pas dépassé. Or, Dieu, en Jésus, nous dépasse toujours. Mais nous, comme les proches parents de Jésus, nous voulons le ramener à la maison en disant « Il est devenu fou ». Et Jésus va tout inverser et dit « Ne me ramenez pas à vous, mais moi, je peux choisir parmi vous, c'est-à-dire tout un chacun à tour de rôle, je peux choisir ma mère, mon frère, ma sœur. Ma famille n'a pas de limite. Le tout est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est découvrir par grâce que l'on est fils et fille bien-aimés de Dieu. Pourquoi Jésus, c'est une question qui m'a été posée, pourquoi Jésus s'appelle-t-il le Fils de l'homme? Et c'est la seule appellation de Jésus que nous trouvons sur les lèvres de Jésus. sauf une fois dans les Actes des Apôtres, et c'est Étienne qui le dit, le premier martyr. Le terme de fils de Dieu est un peu ambigu pour un juif, puisque toute créature de Dieu est fille de Dieu. Parce que le terme fils n'a pas en hébreu exactement le même sens qu'en français, fils ou fille. Fils ou fille, ça se dit d'une réalité ou d'une personne qui a un rapport, une relation très profonde avec autre chose. Mais ça peut se dire d'une chose. Par exemple, cette salle est fille de la maison, d'une partie de la maison, elle fait partie de... Et ce terme « fils de Dieu » est utilisé généralement d'une manière particulière à propos du roi et à propos du peuple d'Israël. Et donc à partir de tout un chacun dans le peuple d'Israël. Donc le terme « fils de Dieu » peut se dire au fond de tout Israélite. Et donc ça ne signifie pas ce que nous mettons sous le terme pour nous aujourd'hui, après 2000 ans de théologie. Le terme Messie ou Christ, c'est un peu la même chose. Messie ou Christ, c'est au fond l'idéal royal, l'idéal du gouvernant que chacun attend. Cet ordre de justice et de paix vers lequel nous allons ou que nous espérons, plus ou moins. Mais il est très difficile de se mettre d'accord pour le réaliser, hein, même quand on demande de suivre des lois pour diminuer au moins la pollution dans le monde, on s'empresse de voter la loi puis de ne rien faire. Donc, on ne parvient pas à faire les frais qui sont demandés par ce qui conviendrait à tout un chacun. Et l'idée de Messie, c'est un peu cela. C'est cet ordre nouveau que l'on attend, qu'on voudrait bien qu'il se réalise, mais on ne fait pas toujours l'effort pour le réaliser. Et quand quelqu'un fait cet effort, eh bien, dans le judaïsme, on l'appelle le Messie. Hein? Dans le judaïsme, quand on demande, mais qui est le Messie, le rabbin vous répond, c'est toi. À toi de le devenir. C'est-à-dire, à toi de réaliser les 613 prescriptions de la Torah. Donc, si Jésus avait accepté ce terme, il l'accepte pour lui-même, quand on l'appelle comme cela. Il accepte qu'on l'appelle fils de David, c'est-à-dire hein, Messie aussi. Mais il ne s'appelle pas lui-même de cette manière-là. Il ne se dit pas Christ, il ne se dit pas fils de Dieu. Il fait percevoir comment il est Christ et comment il est fils de Dieu. Nous allons le voir d'ailleurs. Mais le terme qu'il se donne, c'est fils de l'homme. Alors je vous ai dit hier que fils de l'homme vient d'une expression très concrète qui dit un véritable homme. Un fils d'homme, c'est un homme. Mais il se grossit dans l'Ancien Testament d'une autre perception, c'est le prophète. Le prophète est particulièrement un fils d'homme. Parce que le prophète, ben, c'est un homme comme les autres, mais qui est investi d'une grâce de Dieu pour révéler à ses contemporains la véritable valeur de l'homme comme image de Dieu. Et donc, c'est un homme, mais un homme qui a reçu une grâce prophétique. Et puis nous avons un passage très important dans le livre de Daniel, donc qui a été composé peut-être 150, 200 ans maximum avant Jésus. Et dans ce livre de Daniel, le personnage de Daniel lui-même, bon, c'est un prophète, Mais c'est aussi une figure un peu à la fois historique et au-dessus de l'histoire. Et au chapitre 8 et au chapitre 9, nous avons deux visions de ce prophète. Il voit venir comme un homme. C'est la prophétie des semaines, prophétie messianique. Et celui qui vient expliquer la vision, c'est l'ange Gabriel. Gabriel dit, Dieu c'est mon homme, c'est mon mâle. C'est ça que veut dire Gabriel. Et qui vient deux fois. C'est pour ça d'ailleurs que Saint-Luc, dans le Nouveau Testament, quand il veut dire que ce Messie que l'on attend est arrivé, il nous montre que Gabriel vient le dire. Le même ange. Hein, il fait comme ça la charnière entre Ancien et Nouveau Testament. Et au chapitre 9e, il y a une vision de comme un fils d'homme qui vient sur les nuées et qui vient pour juger. Juger, ça veut toujours dire protéger et donner le salut hein, dans l'Ancien Testament. Et qui vient juger les hommes. C'est au chapitre 7, au verset 9 et suivant. Et je vous lis ce passage. Tandis que je contemplais Dieu lui-même, des trônes furent placés et un ancien s'assit. Hein, l'ancien qui est comme le représentant de la présence divine. Son vêtement blanc comme la neige, la divinité, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent, c'est un trône qui bouge. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui, mille milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui, le tribunal était assis, les livres, c'est-à-dire les vies de chacun, étaient ouverts. Donc une vision grandiose, que d'ailleurs l'apôtre Jean va reprendre pour décrire l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Dieu. Je contemplais, un peu plus loin, au verset 13, dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Comme un fils d'homme. Mais ici, c'est une vision. Vous verrez très fort, très bien la différence entre une vision et la réalisation historique qui est Jésus. Comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. Une sorte de plénipotentiaire divin, si vous voulez. Hein? À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Vous savez que à l'époque romaine, à l'époque de l'Empire romain, les rois, les petits roitelets, aller chercher leur nomination chez l'empereur. C'est un peu cette vision-là qui est exprimée. Donc on va rechercher sa royauté chez l'empereur. Mais ici, c'est Dieu qui donne la royauté à... Quoi ? Comme un fils d'homme qui s'avance jusqu'à l'ancien, et à lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation, et langue, le servir. Donc c'est comme un roi universel. Son empire est un empire éternel, non pas seulement universel, mais à travers les temps, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Et puis, un peu plus loin, on montre que ce roi, qui fera sauter, pourrait-on dire, tous les royaumes terrestres. Le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront. Et voilà que ce fils d'homme, qui devient le roi d'un empire, fait souche en quelque sorte. Et sa puissance est transmise au sein du Très-Haut. Tout cela pour vous dire que dans cette vision de Daniel, ce fils d'homme est à la fois un personnage et aussi une collectivité. Et si Jésus utilise ce terme, c'est parce que, à l'époque de Jésus, dans d'autres livres qui sont des apocryphes, ce sont les livres d'Enoch, comme on les appelle, hein, on reprenait cette image du fils d'homme qui venait sur les nuées pour juger l'humanité entière, on le reprenait et on l'utilisait. Si bien qu'à l'époque de Jésus, ce terme était un peu comme la vision de ce que devait être l'homme sous le regard de Dieu. Donc il y a déjà tout un travail, hein, l'expression est devenue déjà quelque chose de présent dans la mentalité courante. Ce Messie que l'on attend est vraiment un homme, et en même temps un homme qui transmet son pouvoir, sa puissance à tous ses, entre guillemets, adeptes, à tous ceux qui vivront avec lui. Et c'est de là que vient l'image du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est cette entité qui n'est pas norme, qui n'est pas humaine, qui n'est pas physique, qui n'est pas une royauté humaine comme les autres, mais une royauté spirituelle. Mais une royauté vraiment humaine, qui vit vraiment dans l'homme. Mais quand Jésus parle du Fils de l'homme, il n'en parle jamais en première personne. Il ne dit jamais « je sous-signé Fils de l'homme ». Il en parle toujours à la troisième personne. Comme celui qui est le Fils de l'homme déjà maintenant, et qui ne l'est pas encore tout à fait, qu'il le sera quand il sera mort et ressuscité. Il faut que le Fils de l'homme meure. Donc vous voyez, c'est un mot qui a toute une vibration en lui. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement précis. Et pourtant, quand on parle de Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est de cette vision réalisée dans l'histoire qu'il s'agit. Et donc, si Jésus se donne comme le Fils de l'homme, il se donne à la fois comme celui qui réalise cette espérance d'Israël et du monde entier, mais dans une humanité historique faite pour s'ouvrir et pour éclater et pour englober toute humanité. Nous aimons bien les concepts tout à fait précis. Or, nous arrivons dans un monde de concepts qui n'est pas du tout précis, comme les sémites aiment bien. Mais c'est une réalité qui s'ouvre, je dirais presque en expansion. D'où la difficulté de cerner ce mot. Mais il ne faut pas le refermer en nous disant « c'est une simple humanité » et il ne faut pas en faire une réalité tellement floue qu'elle n'a plus de consistance historique. Jésus entend bien lui donner dans sa présence humaine une consistance historique. Maintenant, et de plus en plus, aussi bien d'ailleurs chez les incroyants que chez les croyants, s'insinue ce qu'on appelle le Nouvel Âge, New Age. Au fond, la réalité du Nouvel Âge, c'est une reprise de ce qui existait au IIe siècle de notre ère et que l'on appelle le gnosticisme. C'est-à-dire que tout se trouve dans la compréhension qu'a l'homme de lui-même. La gnose, c'est cela. Et on comprend tout à partir de soi. Et la tendance du Nouvel Âge, c'est de dire, bon, Dieu, concept ancien, ringard, on n'a plus besoin de cela. Maintenant qu'on sait la puissance exorbitante qu'a l'homme, donc le véritable Dieu, ce que les autres donnaient comme Dieu quand ils ignoraient encore ce qu'était l'homme et sa puissance, pouvons dire c'est l'homme. Et nous retrouvons le terme de fils de l'homme dans cette acception-là. Dieu, pas besoin, l'homme, c'est tout. L'homme, c'est mon Dieu. L'homme avec un grand H. Une sorte de d'homme mythique. Ne vous en faites pas, c'est déjà venu à plusieurs époques de l'histoire de l'Église. Ça vient, puis ça passe. Mais donc, centrons tout sur l'homme. Plus besoin de se dire chrétien, il suffit de se dire humaniste. Et ça, je veux dire. C'est du Nouvel Âge. Se dire humaniste, c'est-à-dire se dire faisant partie d'une grande humanité qui a finalement remplacé Dieu. Or, qu'est-ce qui manque dans cette perception des choses? Il manque le rapport essentiel à l'histoire. Ça devient une simple idéologie. L'idéologie de l'humanité, du grand humain. Et donc il n'y a plus de consistance historique. Et nous avons de ce fait laissé tomber quelque chose d'absolument essentiel dans notre christianisme, c'est cette référence à l'histoire humaine. Une idéologie, tout le monde peut l'accepter. Il suffit de lui montrer ce qu'elle signifie, de démonter en quelque sorte cette idéologie. C'est à la mesure de l'esprit humain. Mais Dieu, tombant dans notre humanité,